Vous écoutez Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, auteure et ancienne recruteuse. Chaque vendredi, je vous donne plein de conseils pour vous aider à trouver un job ou un stage. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur LinkedIn, mais aussi sur notre nouveau répondeur au 01 73 05 45 27.
Trouveur d'emploi, le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault.
Chers auditeurs de Trouveurs d'emploi, bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui avec un invité qui me tient à cœur. C'est un ami précieux que j'ai rencontré sur LinkedIn. Il s'agit de Gaël Châtelain-Berry. Alors, je vais vous le présenter rapidement et je pense qu'il aura peut-être des choses à rajouter parce que Gaël fait énormément de choses. Alors déjà, c'est un conférencier connu qui intervient sur différents sujets et surtout sur le management bienveillant. Je crois que c'est un concept qu'il a apporté, inventé lui-même, il nous le dira. Il intervient également sur un podcast qui s'appelle Happy Work avec plus de 400 épisodes et je vous invite vraiment à découvrir ce podcast qui est très intéressant. Il fait des conférences. Il a écrit, je crois, de mémoire 11 livres. Le 12e vient de sortir. C'est probablement le plus gros producteur de contenu sur LinkedIn et je sais qu'il fait tout lui-même. Il écrit à la vitesse de la lumière. Que puis-je dire d'autre sur Gaël ? Eh bien, aujourd'hui, il nous fait l'honneur d'être là et il nous fait l'honneur de nous donner 5 conseils pour réussir votre recherche d'emploi, mais surtout vos entretiens de recrutement, parce qu'il a été également manager, il a aussi beaucoup recruté dans sa vie et je pense qu'il va nous raconter plein de choses intéressantes. Petite précision, comme vous le savez, il est possible que je ne sois pas d'accord avec tous les points de Gaël, mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt de ce podcast Trouveur d'emploi, c'est qu'il n'y a pas une vérité en recherche d'emploi, il n'y a que des vérités, ça vous permettra aussi de choisir ce qui vous convient. Alors je te donne la parole Gaël, est-ce que tu peux te présenter rapidement si j'ai oublié des choses te concernant ?
Alors déjà, merci de m'avoir invité, je suis hyper content parce qu'en fait, tu ne le sais pas, mais je t'ai donné un petit surnom. En fait, tu es mon padawan. Parce qu'en fait, je me rappelle de notre rencontre sur LinkedIn où tu commençais sur LinkedIn et tu m'as contacté. Et je t'ai donné 2-3 conseils. Et maintenant, bah, c'est toi le maître Jedi puisque tu es largement avec une communauté supérieure à la mienne. Donc, je suis très, très content. Et ce qui montre, et ça, je le dis toujours aux gens, qu'il faut toujours répondre aux emails. LinkedIn, c'est un réseau social et dans social, bah, oui, il faut répondre, prendre du temps pour les gens. Donc voilà, je suis particulièrement content d'être là.
Alors, je confirme ce point. Quand j'étais toute jeune sur LinkedIn et que je n'avais que 485 abonnés, en mars 2016, j'avais beaucoup d'admiration pour toi. Tu avais déjà 30 000 abonnés et je t'ai contacté en effet en message privé. Et je t'ai même demandé à un moment, je crois que je faisais mon premier post et j'étais complètement effrayée. Je t'ai dit, je crois que vous avez une grosse visibilité. Pourriez-vous me donner des conseils et pourriez-vous venir sur mon post, m'apporter de la visibilité ? Tu l'as fait. Et je ne l'ai pas oublié, je t'en remercie.
Mais comme quoi, quand tu parles de bienveillance, c'est le truc qui est terrible, c'est que je le suis. En fait, j'essaye d'appliquer dans ma vie quotidienne ce que je prône. Parce qu'effectivement, j'ai créé le concept de management bienveillant dans un livre qui est sorti maintenant il y a 7 ans, qui s'appelait « Mon boss est nul, mais je le soigne ». D'ailleurs, qui va bientôt sortir en version audio. Donc voilà, non mais tu as tout dit sur ma présentation. Je suis podcasteur, écrivain, conférencier, j'ai d'autres activités, mais... qui ne sont pas très intéressantes.
Si, j'ai oublié aussi, tu as une chaîne YouTube.
Oui, alors ça, c'est un détail. Je travaille sur ma chaîne YouTube petit à petit. Je me suis donné comme défi cette année de faire que ça marche un petit peu. C'est compliqué, les réseaux sociaux.
En tout cas, tu es impressionnant parce que sur tous les bords, sur tous les fronts, et surtout, tu fais tout toi-même, et ça, c'est quand même assez rare. Et puis, tu écris aussi beaucoup d'articles, notamment sur LinkedIn, qui sont vraiment intéressants. Donc, je conseille à ceux qui ne te suivent pas déjà d'activer la petite cloche sur LinkedIn et de te suivre. Alors, je te propose qu'on démarre et que tu commences par le premier conseil pour les chercheurs d'emploi.
Alors, le premier conseil, il est tout bête, mais quand je recrutais, j'étais toujours halluciné de voir que les personnes ne s'étaient pas renseignées sur la boîte. Je vais te raconter une anecdote, j'étais chez TF1 à l'époque, et je reçois un candidat, je ne sais plus pour quel poste, et je lui dis, quelle émission regardez-vous ? Sur TF1, sous-entendu. Ah non, moi je regarde pas cette chaîne. Je fais comment ça, vous ne regardez pas cette chaîne ? Ah non, non, je cautionne absolument pas les contenus de la chaîne. C'était à l'époque où il y avait des programmes intellectuels comme L'île de la Tentation, enfin des trucs qui pesaient un petit peu. Donc moi, je cautionnais pas forcément tous les programmes, bien entendu, mais là, c'était pour travailler sur les produits dérivés. Donc moi, j'étais le chef de Pikachu, des produits dérivés Star Academy, enfin ce genre de trucs. Mais la personne n'a pas eu la curiosité intellectuelle d'aller voir, mais surtout, on ne vient pas à un entretien en disant « Non, mais vos produits, c'est de la merde. » Juste, enfin, c'est poli. Et ensuite, se renseigner sur l'entreprise. Donc, toutes les entreprises ont des sites web, il faut aller voir ce qu'elles font. Il faut se renseigner, il faut aller voir les valeurs, il faut voir si on est en phase avec les valeurs. Donc, il faut, à minima, montrer à son interlocuteur qu'on s'intéresse à l'entreprise. Et dire « Non, moi, je ne regarde pas la télé. » Parfois, je pense qu'un petit mensonge, c'est pas mal. Et dire, voilà, je regarde pas trop votre chaîne, mais j'aime bien la télévision, j'aime bien cet univers-là, et c'est pour ça que je viens à cet entretien. Parce que c'est travailler chez TF1 et pas aimer la télévision en général, ou les marques portées par la télévision, parce que c'était pour travailler sur les produits dérivés, ça me semble mal parti. Et autant te dire que ce jeune homme n'a pas été recruté.
Alors, je valide complètement ton premier point sur l'intérêt de se préparer. C'est un signe de motivation. Et la motivation, c'est ce qui est le plus important. Quand on interviewe tous les recruteurs, c'est ce qu'ils disent. Entre deux candidats, ils choisiront toujours le plus motivé, pas nécessairement le meilleur, mais ils vont choisir celui qui a envie, un petit peu comme dans les relations amoureuses. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe et que le cœur soit là. Donc, la motivation, elle passe en effet par se renseigner. Alors, là où j'ai une petite je m'interroge quand tu dis il faut mentir un petit peu en entretien. Moi, j'ai toujours tendance à dire ne mentez jamais, sauf en cas de discrimination. Mais là, je pense que ton exemple n'est pas mauvais, qu'on peut peut-être s'autoriser de transformer un petit peu la vérité.
Pour des gens qui travaillent dans un média, là, c'est un exemple qui est très spécifique. Mais c'est vrai, si jamais la personne n'a pas la télé, ça ne lui coûte pas grand-chose de dire « oui, je ne regarde pas énormément, bien sûr, j'ai une télévision chez moi et je regarde tel programme ». Ça semble tellement aberrant aujourd'hui de ne pas avoir de télévision, même si je connais plein de gens qui n'en ont pas. Mais quand on passe un entretien, ça ne me semble pas un énorme mensonge. Mentir sur son CV, ça, jamais, bien entendu. Et là, je te rejoins, mais il y a des petits mensonges. Bon.
Et alors, par rapport à la préparation pour nos auditeurs, ils peuvent regarder sur Google, mais ils peuvent aussi surtout aller se renseigner sur LinkedIn, parce que c'est une mine d'informations. Il suffit qu'ils tapent dans la barre de recherche l'entreprise dans laquelle ils vont aller passer des entretiens. Ils voient le nom des managers, ils voient le nom même du recruteur. Ils regardent aussi les publications. Et cela donne aussi une idée des valeurs de l'entreprise au travers de ce qui est publié par les dirigeants, par la page entreprise, mais surtout par les collaborateurs eux-mêmes. Tu le confirmes ?
Ah oui, complètement. Et puis, je vais même te dire, on peut oser contacter des salariés pour demander ce qu'ils en pensent. Moi, je l'avais fait il y a longtemps, parce que ça fait longtemps que je ne suis plus en entreprise, mais contacter en direct des gens en disant « voilà, je vais passer un entretien, j'aurai 2-3 questions, est-ce qu'on peut s'entretenir ?» Pourquoi pas ? En gros, je crois que l'audace paye toujours. Alors ça, tu ne l'as pas dit, mais j'en suis dans ma carrière. Donc, j'étais diplômé au siècle dernier, en 1992. J'en suis à mon 25e métier. Et j'ai jamais eu peur de rien. Il faut pas avoir peur. Et là où je précise, c'est mon expertise, elle est plutôt sur des gens avec diplôme, plutôt dans des travaux de bureau, etc. Donc, il y a certaines choses qui vont moins s'appliquer dans les conseils que je vais donner.
Bien sûr, alors je te rejoins sur le conseil d'oser. Moi, je dis toujours qu'il faut oser parce que ça permet de n'avoir aucun regret. Il faut avoir par contre beaucoup d'humilité parce qu'on peut se prendre des portes, on peut se prendre des noms. Mais au moins, on n'a pas de regret. Et je trouve que quand on ose, il y a aussi de très jolies histoires qui se créent. La preuve, quand j'ai démarré sur LinkedIn, j'ai osé te contacter et tu as osé me répondre. Alors, je te propose qu'on passe au deuxième conseil.
Le deuxième conseil, il est tout bête, mais c'est pareil, j'ai fait passer beaucoup, beaucoup d'entretiens, comme tu l'as dit en introduction. Dormez bien avant l'entretien. Voir arriver un candidat où ça se voit qu'il sort d'un bar ou d'une boîte de nuit, c'est pas que c'est mal, c'est que ça donne le sentiment que la personne n'est pas hyper motivée par l'entretien. On a tous et toutes passé des entretiens, et il y a une forme de stress quand même. Et on se dit, je vais me préparer, je vais présenter la meilleure version de moi. Et la meilleure version d'un candidat, c'est quand même, ben, je suis à peu près en forme, je suis à peu près présentable, je parle normalement et j'ai pas une haleine de chacal parce que je sors de boîte de nuit. Donc, bien dormir, se concentrer, être calme, apaisé, zen, ça me semble très important pour avoir vu trop de candidats arriver avec des poches sous les yeux. Et là, c'est un message qui s'adresse surtout aux jeunes. La soirée que vous avez prévue avec des potes, décalez-la de 24 heures pour fêter le succès de l'entretien.
Alors, tu sais que je vais dans ton sens, mais que je peux aussi conseiller autre chose, c'est de décaler les heures d'entretien. C'est-à-dire que si on n'est pas du matin, si on sait qu'on va avoir une soirée ou qu'on a du mal à se réveiller, autant quand le recruteur nous propose un rendez-vous, choisir le rendez-vous de l'après-midi. C'est un petit peu plus dangereux parce que les recruteurs sont un peu plus fatigués l'après-midi, mais ça peut nous aider également. Et dans ce que tu dis, il y a vraiment cette notion de préparation. On vient, toi et moi, d'une époque, je crois que tu es plus jeune que moi, mais on vient d'une époque où on passait beaucoup d'entretiens. À notre époque, les entretiens, surtout suite à la crise, les entretiens sont plus rares, ont plus de valeur et méritent vraiment d'être très bien préparés. Tu l'as dit dans la question, hein, mais ce que tu dis dans cette deuxième idée, c'est qu'il faut être bien préparé soi-même, bien dormir, tu l'as dit, prendre un bon petit déjeuner, être habillé aussi dans une tenue qui nous convient, une tenue confortable dans laquelle on se sent à l'aise, une tenue professionnelle et surtout une tenue qui correspond au code de l'entreprise.
Je crois que c'est mon troisième point et on va pas être d'accord là-dessus, parce qu'on s'était déjà pris la tête sur LinkedIn à ce sujet-là.
Alors, troisième point.
Le troisième point, c'est venez comme vous êtes. Et avec Christelle, on n'est pas du tout d'accord là-dessus. Mais c'est-à-dire que si vous ne mettez pas de cravate, si l'entreprise, le code de l'entreprise, c'est de mettre des cravates, venez sans cravate. On s'en fout. Et je donne ce conseil, et là je parle vraiment, encore une fois je précise, c'est de gens plutôt diplômés sur des postes de bureau. Qu'est-ce qu'on est malheureux à devoir adopter un costume tous les jours qui n'est pas le nôtre. J'ai vu des gens, mais tellement malheureux. Petite anecdote, je me rappellerai toujours, alors c'était pas vraiment un entretien de recrutement à part entière, mais c'était, je devais présenter, à l'époque où j'étais chez TF1, un projet pour créer une filiale chez TF1. À Patrick Lelay. Donc, pour les personnes qui savent qui était Patrick Lelay, c'est un monsieur qui était quand même très, très impressionnant. J'avais 30, 31 ans. Et juste avant, je me retrouve dans le bureau d'une des directrices générales de TF1 Publicité. Et il y a plein de directeurs généraux qui m'accompagnent. Je sens qu'ils sont tous et toutes super flippés. Mais vraiment. Et il y a un directeur général qui me regarde. À l'époque, j'étais toujours avec des costumes vraiment super classe, des baskets, chemise en dehors du pantalon, pas de cravate. Et là, il y a un monsieur dont je tairai le nom, costume-cravate, mais costume-cravate, je pense qu'il avait dû acheter, c'était des haillons, quoi, mais c'était costume-cravate. Et il me regarde, il fait, mais Gaël, tu vas pas y aller comme ça, quand même. Et j'ai adoré que la directrice générale de TF1 Publicité dise, mais qu'est-ce que tu l'embêtes, c'est sa tête qui est importante, c'est pas comment il est habillé, est-ce que tu crois vraiment que Patrick va dire non ou oui en fonction de comment il est habillé? Ben je trouve que ça résume ça. Si quelqu'un est capable de ne pas recruter une autre personne parce qu'il n'a pas de cravate, mais n'allez pas travailler pour cet abruti. N'y allez pas. Alors, je ne dis pas d'y aller en tongs. Quoique, il y a certains développeurs, ben, je suis désolé, il y a beaucoup de télétravail, qu'est-ce qu'on en a à faire? Et si un recruteur s'arrête à l'apparence, n'allez pas travailler pour ces gens. Et je vais te dire quelque chose, Christelle. On fait effectivement partie d'une génération où on a beaucoup entendu cette phrase. Si tu n'es pas content, il y en a 10 qui veulent ton boulot. Là, maintenant, les entreprises vont entendre de plus en plus cette phrase. Si tu manques de respect, il y a 10 boîtes qui me veulent. Le pouvoir a changé et est en train de changer de camp. Et on le voit aux États-Unis avec le mouvement de la grande démission. Donc, venez comme vous êtes. Ne faites pas d'effort vestimentaire si vous ne sentez pas de faire un effort vestimentaire. Venez, là où je te rejoins, avec des vêtements qui vous conviennent, qui sont les vôtres, qui vous ressemblent. Et si la personne ne vous recrute pas juste pour ça, bah, c'est que vous n'avez rien à y faire.
Alors, il faut quand même que je me défende pour les auditeurs parce qu'ils vont se dire, mais Christelle, elle est complètement psychorigide. C'est à cause de son âge. Non, donc, je te rejoins sur cette notion de être à l'aise et d'aller dans une entreprise qui correspond à nos valeurs. La seule chose, c'est que souvent, je dis aux candidats, faites attention à qui est le recruteur. Quand c'est un intermédiaire, par exemple, un cabinet de recrutement, on n'est pas dans le même mood, on n'est pas dans le même esprit que quand c'est notre futur manager dans l'entreprise. Donc ça, c'est la première chose, donc savoir doser ça. Le deuxième élément, quand on dit « venez comme vous êtes », je dirais qu'il faut faire attention à ce qui peut détourner l'attention du recruteur. Par exemple, tu vois, si on met des très grosses boucles d'oreilles, un gros collier, on soulève ses bras, on voit tous les tatouages, etc. Je ne dis pas qu'il va y avoir un jugement de valeur. Sauf que, et j'ai été recruteur et toi aussi, tu sais ce que ça fait, souvent on est amené à regarder ce qu'on a en face et on n'écoute plus ce que l'autre nous dit. Donc quand je dis venez dans une tenue qui soit neutre et professionnelle, c'est parce que je souhaite que le recruteur écoute ce que le candidat a à dire et n'ait pas l'attention détournée. Mais je reconnais qu'on s'était pris la tête sur LinkedIn, mais tout tu sais fait. Que j'ai changé d'avis depuis.
Ah.
Parce que j'ai reçu notamment dans ce podcast Dorit Naon, que tu dois connaître sur LinkedIn, qui a beaucoup de tatouages et qui a fait des posts sur « Je me suis présentée comme j'étais » et qui a mis en avant la personne qu'elle est et qui, a, grâce à ça, a eu beaucoup, beaucoup de sollicitations. Donc, je suis d'accord avec toi. Le monde est en train de changer. Tant mieux. C'est grâce aux nouvelles générations. C'est grâce à la crise. Et puis, je dis aussi maintenant aux entreprises, attention, les candidats aussi vous recrutent.
Mais c'est pas aussi, c'est maintenant, ce sont les, sur plus en plus de secteurs. Avant, s'il n'y avait que les développeurs, où on disait ça, mais je vois par exemple les experts comptables. On ne va pas dire que c'est le métier le plus glamour de la planète, mais j'ai parlé à plein de cabinets qui me disent, mais des bac plus 2 en comptabilité de moins de 30 ans, mais s'ils ont le moins de problèmes un vendredi, et c'est arrivé plein de fois, ils disent, allez, bye bye, et ils savent que lundi, ils sont chez un concurrent. Sur de plus en plus de métiers, c'est le cas. Donc c'est vraiment... Chers recruteurs, attention, le pouvoir est en train de changer de camp. Et pour revenir sur le comment on est, on va peut-être enfin s'apercevoir en France qu'on recrute des cerveaux. Et ce n'est pas une question de couleur, ce n'est pas une question de genre, parce que fut un temps, c'était une question de genre aussi. Regarde, je vais te donner un exemple. Vous avez des enfants ? À quel moment on pose ça, cette question à un homme de moins de 30 ans ? Quelle femme de moins de 30 ans n'a pas entendu cette question ? Mais maintenant, elle ne l'entend plus parce qu'on s'en fout, c'est un cerveau qu'on recrute. Et donc l'apparence, pour moi, elle est absolument essentielle parce que mine de rien, mettre un costume au sens symbolique du terme presque, tous les matins, c'est effrayant. Et tu le sais, si je suis un gros militant pour qu'on reconnaisse enfin le burn-out comme maladie professionnelle, ça fait partie des pressions mentales qu'il y a sur les gens sur « bah ouais, mets ton costume, t'as pas le droit d'être toi ». Et puis tu vas rester jusqu'à 19h tous les jours parce qu'il faut prouver que tu travailles. Donc tous ces codes-là sont en train de voler en éclats et je suis hyper content.
Eh bien écoute, je suis aussi contente que toi. Alors quel était, Gaël, ton quatrième conseil ? Sachant que les candidats nous écoutent, les chercheurs d'emploi, les chercheurs de stage, donc des jeunes et des moins jeunes, mais aussi des recruteurs et aussi des employeurs et aussi des managers.
Alors mon quatrième conseil, c'est d'être un caméléon. C'est-à-dire qu'on ne vient pas là pour sortir un discours pré-mâché, pré-préparé. Il faut faire attention aux mots utilisés par l'interlocuteur. Donc il faut essayer de faire parler l'interlocuteur pour voir s'il a des mots qu'il aime bien. Par exemple, je vais grossir le trait volontairement. Si la personne avec qui je passe l'entretien utilise toutes les trois phrases « ouais, ça défonce », donc un mot de Jones. Il ne faut pas hésiter à reprendre certains items parce que ça crée une empathie, ça crée une sorte d'harmonie qui fait que la personne va dire « Oh là, mais lui, il est un peu comme moi. » Parce qu'un recruteur va, qu'il le veuille ou non, avoir tendance à recruter quelqu'un qui lui ressemble. Et donc, faire attention à l'attitude. Si la personne se tient très droite, il faut se tenir très droit. Si la personne, au contraire, est plutôt en arrière, plutôt relax. Donc, il faut essayer sans être trop stressé parce que je ne voudrais pas que ce conseil stresse les gens et que les personnes se disent dès qu'ils vont à un entretien « Oh là là, il faut que je scanne, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, comment il se tient ?» Mais malgré tout, par exemple, si la personne est en train de boire un café et propose un café, il faut accepter un café, même si on n'aime pas, si on n'a pas envie d'en boire un, on se force parce que ça crée ce lien. Cette ressemblance crée le lien et ça fait un effet psychologique qui est impactant.
Alors là, je suis complètement d'accord avec
non.
toi. Oui, parce qu'en faisant ça, tu crées une alliance avec le recruteur. Et il faut toujours rappeler que les recruteurs ne sont pas nos ennemis. Ce sont des alliés qui vont nous amener, alors que ce soit des recruteurs de cabinet, de services RH ou même des managers, qui vont nous amener vers le poste et on va y aller ensemble. Et c'est une des règles aussi de savoir vivre que de s'adapter à celui qui nous reçoit, d'avoir les mêmes mots que lui, de créer finalement cette alliance. Et alors tu sais, tu parles de caméléon. Moi, je parle plutôt, parce que je suis une ancienne commerciale, je parle de vente. Parce que c'est un des secrets des commerciaux, des bons vendeurs, des bons commerciaux, c'est d'écouter l'autre, d'essayer de comprendre ce qu'il dit, d'écouter son langage corporel, d'analyser ses besoins et ensuite seulement de se présenter en fonction de ce que l'autre attend. Donc, ça rejoint aussi cette notion.
complètement. Et puis c'est un sous-conseil sous ce conseil-là. Toujours penser aux 5 premières secondes qui sont toujours les plus importantes quand on rencontre une personne, la façon dont la personne marche, la fonctionne. Alors maintenant, on ne serre plus la main, donc c'est plus simple. Mais il y avait ça. Je peux me permettre un petit conseil annexe pour les mecs surtout.
Oui, ah bah vas-y. Alors, on est très très preneurs hein, chez Trouveur d'emploi.
Cirez vos chaussures. Non mais c'est tout bête, hein. Mais c'est le nombre de mecs que je vois avec des chaussures non cirées. Ouais, bon, là, il n'y a que des baskets dans le studio.
Il n'y a que des baskets.
Non, mais c'est, si vous avez des chaussures en cuir, et, c'est vraiment important parce que ce sont des détails que les gens regardent.
Alors, tu sais que je peux aller dans ton sens pour ce conseil. Figure-toi que... alors, je vais te poser la question dans l'autre sens. À ton avis, les recruteurs femmes regardent deux choses. Est-ce que tu sais quelles sont ces deux choses? En premier?
Je dirais les chaussures et les ongles.
Tu n'es pas loin. C'est les chaussures et les mains.
Ouais.
On aime beaucoup les mains.
Tu chipotes,
mais non,
ça,
mais
je dis
tu n'es pas
ongles.
Loin, les ongles. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'on va regarder les mains. Et on regarde en effet les chaussures. Donc, de plus en plus de personnes ont des baskets, c'est vrai. Mais c'est vrai que des chaussures non cirées. Alors, encore une fois, on ne va pas être dans le jugement, mais on peut s'interroger sur la motivation, sur la préparation. Ou alors, on peut tout simplement se dire, tiens, c'est bizarre, il est venu en entretien avec des chaussures non cirées, ta 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 ta. Et pendant qu'on se dit ça, dans notre cerveau, on n'écoute pas ce que le candidat est en train de dire.
Bah, c'est comme les ongles noirs, c'est pas super chic quand même. Et ça dit quelque chose de la personne, forcément. Mais tu sais, il n'y a pas que les filles, hein. Moi aussi je faisais ça.
Tu regardes les pieds et les mains?
Oui, mais je crois que je suis une vraie gonzesse en fait. Non, mais je regardais parce que... Mais c'est comme quand je recrutais les CV, je regardais quasiment pas du tout même. Non, je regardais pas du tout les expériences, que c'était mon service RH généralement qui faisait la présélection. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les hobbies. Parce que je trouve que ça révèle la personne, qui est la personne. Et comme je vais travailler avec cette personne potentiellement pendant longtemps, j'ai envie de savoir si on est en affinité. J'ai envie de savoir si... J'étais plutôt sur des métiers créatifs et compagnie. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce qu'il faisait en dehors du travail. Si quelqu'un me dit, moi, ma passion, ça m'est arrivé une fois. Donc c'est une vraie anecdote. Qu'est-ce que vous faites quand vous voulez vous détendre? Je lis les pages saumon du Figaro. Ah ouais, quand même, c'est super détente. Et je croyais que la personne déconnait. Mais en fait, pas du tout. C'était vraiment sa détente. Alors là, ça va être un conseil plus pour les recruteurs, notamment dans le cas de recrutement de commerciaux, de créatifs, marketing, com, tout ça. Il faut s'intéresser impérativement aux patients parce qu'on parle beaucoup de soft skills depuis 4-5 ans. C'est compliqué de les évaluer en entretien de recrutement. Comment on mesure qu'une personne est créative? Comment on mesure qu'une personne est curieuse? Comment on mesure qu'une personne va aimer travailler en équipe? Bah, si dans ses passions, on voit quelqu'un, c'est très archétypique ce que je vais dire, j'en ai conscience. Que c'est quelqu'un qui fait du basket tous les week-ends, qui adore peindre, qui fait de la musique, qui va voir des musées, qui se renseigne, bah, ça dit quelque chose. Et les qualités, on a eu trop tendance en France à être schizophrène entre notre vie professionnelle et notre vie personnelle. On n'a pas de personnalité. Alors que notre génération, Christelle, je suis désolé de le dire, on a été schizophrène. Et on s'est forcé à être d'autres personnes. Bah, les nouvelles générations, soyez pas de personnes différentes. Et je crois que les recruteurs vont devoir s'adapter beaucoup à ça. Et c'est pour ça que quand je recrutais, je m'intéressais beaucoup, beaucoup, beaucoup aux passions des gens, ce qui parfois perturbait les candidats parce qu'ils avaient l'impression que je ne m'intéressais pas à leurs compétences professionnelles. Et je les rassurais, je disais, mais vous savez, si vous êtes là, vous faites partie des 3 derniers qui ont été présélectionnés par un cabinet de recrutement, par une DRH et par 2, voire 3 de mes collaborateurs ou collaboratrices. Donc, j'estime que vous êtes compétent techniquement. Maintenant, je veux savoir si vous êtes une personnalité qui m'intéresse. Et de savoir que vous avez tel diplôme et compagnie, je m'en fous totalement. Mais là, je parlais vraiment en dernier entretien de validation. Donc, c'est un conseil pour les recruteurs, si c'est vraiment que pour les derniers entretiens.
Mais c'est un conseil qui va s'appliquer aussi aux candidats. Tu sais, moi, je crois beaucoup au paragraphe. Alors, je ne l'appelle pas hobby, parce que je trouve que hobby, ça a un petit côté un peu trop loisir, justement.
Ouais, activité personnelle. Moi,
centre d'intérêt. J'aime bien. Ouais. Tu vois, centre d'intérêt. C'est intéressant, notamment pour les jeunes qui ont peu d'expérience. Et comme tu le disais, ils ont un savoir-être, ils ont des soft skills. Alors, on rappelle, hein, les soft skills, c'est pour ceux qui entendraient ce mot pour la première fois, c'est le contraire des hard skills. Hard skills qui sont les compétences techniques et les soft skills qui sont les compétences humaines, relationnelles, dont a parlé Gaëlle. Et ça permet, ces centres d'intérêt, finalement, permettent de mettre en avant ces soft skills. Néanmoins, attention, je pense qu'il faut les développer. C'est-à-dire que si vous mettez simplement pour remplir des cases, marche à pied, lecture, cinéma, ça a zéro intérêt. Et en plus, il faut être hyper balèze en cinéma si vous vous retrouvez face à quelqu'un comme Gaël ou hyper balèze en lecture. Donc, je conseille de choisir le centre d'intérêt que vous allez développer, sur lequel vous avez des choses à dire, qui va vous aider aussi par rapport au métier, qui va vous aider aussi à vous mettre en valeur. Et quand on met des, on remplit ce paragraphe centre d'intérêt, ça veut dire que on autorise le recruteur à rentrer sur une sphère un peu plus personnelle.
Alors, je suis complètement d'accord. Et en plus, s'il y a des centres d'intérêt un peu originaux, moi, j'ai toujours joué à ça et ça marchait. Mais à chaque fois, il se trouve que j'étais maître de jeu de Donjons et Dragons, qui est un truc un peu particulier. Mais à chaque fois, on me dit « Mais c'est quoi ça ?» Donc, c'est un jeu de rôle, c'est un truc... Et j'écrivais des scénarios pour Donjons et Dragons. Donc, quand il y a quelque chose un peu spécifique, et t'as raison, c'est mettre marche à pied alors que ouais, je fais une balade en forêt une fois tous les 3 mois. Non, faut oublier, c'est pas une obligation. Quoique, très honnêtement, moi, quelqu'un qui vient sans rubrique, centre d'intérêt, je me dis « Mais t'as ton taf dans ta life ou quoi ?» Et centre d'intérêt, ça peut très bien être mes enfants dans l'absolu. Et je trouve ça vachement bien de mettre mes enfants. Enfin, je trouve qu'on commence à arriver dans une période où on commence à comprendre en France, enfin, qu'on recrute des êtres humains. On nous demandait de recruter des robots. Maintenant, vous avez des émotions. C'est fou, ça. Et donc, les centres d'intérêt, ça montre qui on est. Et si ma passion, c'est de faire des quiches Lorraine, mettez-le. Ça revient à ce que je disais sur expliquer qui vous êtes. Et on n'est pas à l'abri de tomber sur quelqu'un dont la Madeleine de Proust, c'est la quiche Lorraine. Et ça peut faire... Non, mais je plaisante pas.
C'est une jolie phrase.
Oui, je sais. Non, mais voilà, il faut vraiment que ça soit sincère et mettre juste lecture ou cinéma. Si effectivement, on va au cinéma une fois tous les mois et qu'on n'est pas cinéphile, ça ne sert à rien. Il faut vraiment mettre des choses qui nous parlent et pas essayer d'analyser la conséquence de mettre telle ou telle passion. Parce qu'il y avait des gens, par exemple, je me rappelle de quelqu'un qui m'avait dit « Mais tu ne peux pas mettre de jeux de Donjons et Dragons, c'est pas sérieux vu le niveau de tes postes. » Je me dis « Mais en quoi c'est pas sérieux ? » Enfin, en quoi ça empiète sur mon travail ? Au contraire, ça montre déjà, si la personne pose la question, ça montre. Moi, ça m'apprend quelque chose sur mon recruteur, il s'intéresse. Et quand je vais lui expliquer qu'écrire un scénario de Donjons et Dragons, ça peut prendre des jours, que faire jouer les gens, c'est pendant des week-ends. Enfin voilà, ça va titiller quelque chose qui est intéressant et ça montre une vraie face de la personnalité. Donc, si vous êtes fan de quiche Lorraine, mettez-le.
Et je te rejoins complètement. Et puis, ça montre aussi ta façon de travailler en mode projet. Moi, je sais que j'ai eu le cas d'un candidat qui était dans les télécoms, qui rêvait d'être chef de projet, mais qui n'avait pas ce poste-là. Il était ingénieur télécom. Sauf que dans ses centres d'intérêt, il travaillait en Afrique depuis plus de 20 ans. Il construisait des puits en Afrique. Il était en mode projet depuis 20 ans avec une équipe de 40 personnes. Et c'est grâce à ça aussi qu'il a eu son job. J'ai encore deux exemples. Une jeune femme qui collectionnait les dés à coudre. Ça s'appelle, c'est un truc hyper digitalo, quelque
ouais,
chose hyper compliqué. Mais tous les recruteurs lui posaient la question et elle était capable de raconter, surtout que c'était une collection qui datait de plus de 100 ans dans sa famille. Elle pouvait parler des heures de cette collection et elle se transformait quand elle en parlait. Elle s'animait, ses yeux brillaient, elle avait des choses à dire, sa voix, elle portait sa voix différemment. Et j'ai eu le cas aussi d'un candidat qui était très, très neutre et qui était passionné par la pêche à la crevette. Il était capable de faire vibrer ton cœur de recruteur en te racontant les petits yeux affolés des crevettes quand on les pêchait au filet. Et je trouvais ça assez impressionnant qu'à partir d'une ou deux passions, le candidat puisse se transformer.
Je rebondis sur quelque chose que tu disais, sur ne pas mentir, ça me rappelle quelque chose qui m'est arrivé. Je fais passer aussi de temps en temps des entretiens pour l'école de commerce que je faisais. Donc c'est une forme d'entretien de recrutement quand tu passes un entretien. Et donc tu dois mettre tes passions. Et là, il y en a un qui met... Les requiem. Ils pensaient que ça faisait chic. Et il se trouve que je suis un spécialiste, mais monstrueux sur les requiem. C'est-à-dire que c'est une passion. J'adore ça. En deux questions, je m'aperçois qu'il ne connaît rien, mais rien au requiem. Donc, conseil 1, mettez pas une passion si c'est pas une passion. Et conseil 2, si on vous prend en défaut de mensonge, admettez-le. Donc, je fais, mais écoutez, monsieur, visiblement, vous ne connaissez pas. C'est pas grave, on va changer de sujet. Mais vous n'avez pas le droit de dire ça, monsieur Châtelain. Comment ça, j'ai pas le droit? Alors, je m'appelais Monsieur Châtelain à l'époque, je n'étais pas marié, je précise. Je vous ai posé des questions sur la colonne de Forêt, de Verdi. Vous ne saviez même pas que Berlioz en avait fait un. Vous ne pouvez pas dire que c'est votre passion. Changeons de sujet. Et je lui dis, changeons de sujet. On est resté sur le requiem pendant tout l'entretien. Le type a eu 1 sur 20. Donc voilà, c'est parfois, il faut aussi écouter. Même dans des situations, c'est jamais foutu un entretien de recrutement. Si on se sent mal... On peut rebondir et encore une fois, on a tous et toutes passé des entretiens, même la personne qui est en face de nous. Donc, elle sait très bien ce par quoi on passe.
Et je voudrais terminer là-dessus. Quand tu dis un entretien n'est jamais foutu, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on peut toujours récupérer un entretien. On peut dire, vous savez, je pensais que ça faisait bien sur mon CV, mais je suis tellement motivée par ce poste. Je voudrais vraiment que vous ne vous arrêtiez pas là. Même quand un entretien s'est mal passé, qu'on s'est planté, on peut très bien dire, il y a beaucoup de choses qui se jouent pour moi aujourd'hui, donc je suis un peu émue, perds mes moyens, et le mettre sur le compte de la motivation. Ça nous amène donc au cinquième point, le point final.
Alors, c'est le point qui tue. J'avais écrit un article là-dessus, c'est sur ce que j'appelle la question qui tue pour réussir un entretien de recrutement. Bien sûr, comme tu as lu tous mes articles, tu sais ce que je vais dire. Elle ment.
Si, je sais.
En fait, on nous pose souvent à la fin d'un entretien cette question, est-ce que vous avez encore une question ? Et pendant très longtemps, moi, je me torturais la tête, puis je sortais des questions débiles. Quel est votre chiffre d'affaires l'année dernière ? Quelle est la stratégie ? Jusqu'à ce que je trouve la question qui tue, qui est de demander à son recruteur, vous, tous les matins, qu'est-ce qui fait que vous avez envie de venir travailler ? Qu'est-ce qui fait que ça vous fait plaisir de venir travailler ? Ça a deux avantages. Les personnes adorent parler d'elles. Donc, on renvoie la balle. Ça, c'est une technique jésuite. C'est quand on pose une question, essayer de répondre par une autre question, c'est toujours pas mal. L'énorme avantage, c'est qu'aussi, on va savoir si la personne est motivée par son travail. Si mon futur patron ne sait pas répondre à cette question ou est décontenancé, ça donne un signe. Parce que comme tu le disais très justement, alors je sais très bien qu'il y a certaines personnes qui écoutent ce podcast qui vont dire « il est gentil, Châtelain-Berry, mais moi, je galère pour trouver un boulot. » Et je sais qu'il y a encore des gens en galère, bien entendu. C'est pas le cas de tout le monde, c'est pas le cas de toutes les catégories, mais petit à petit, ça va aller mieux. Alors, bien sûr, mes conseils s'appliquent pas forcément à tout le monde, et je sais qu'il y a des gens qui sont en galère pour trouver un boulot. Mais comme je disais en introduction, moi, je suis plutôt spécialisé sur des gens qui sont diplômés, qui sont pas justement en rupture scolaire. Et là, sur ces catégories-là, ça va de mieux en mieux. Alors, Christelle, je sais pas si tu le sais, mais probablement certains de tes auditeurs le savent pas. C'est en Île-de-France, par exemple, et dans toutes les grosses communautés urbaines, les moins de 40 ans, bac plus 2, c'est le plein emploi, ce qui est quelque chose qu'on n'a pas connu. Par exemple, diplômé au siècle dernier, et oui, je fais partie des vieux, en 1992, d'une très grande école de commerce, on a galéré pour trouver du travail. Et c'était pas du tout le plein emploi. Et c'est ce que je disais. Et tous les paradigmes sont en train d'être changés petit à petit. Je vais te raconter une anecdote sur le changement de paradigme que j'ai adoré. La conférence la plus drôle que j'ai faite, c'était avant la pandémie, c'était devant des patrons de bar. J'ai jamais vu autant de barbus tatoués en face de moi. Il y avait 200 patrons de bar et je devais leur parler de bienveillance. Et il y avait vraiment deux catégories. Les patrons de bar old school qui disaient « Non mais... on va pas commencer à faire des espaces pauses, on va pas... Non mais j'ai le droit de hurler sur un collaborateur, mais c'est quoi ?» Et les autres qui disaient « Mais si tu veux que les étudiants, par exemple, viennent te serveur chez toi, t'es obligé d'être comme ça. Si tu veux qu'il y ait des gens qui soient fidèles à ta boîte, t'es obligé de faire un espace pause. T'es obligé de, si jamais tu les fais travailler plus, de les payer plus. » Bref, il y avait deux catégories, les bienveillants et les non-bienveillants. Et les non-bienveillants, ils y croyaient pas, mais du tout. Post-pandémie maintenant, je peux te garantir qu'il n'y a plus un patron de bar qui se dit « mais j'en ai rien à faire d'être bienveillant ou pas » parce que c'est une galère pour recruter. Et cette pression-là, toutes les entreprises petit à petit vont les connaître et c'est juste parfait. Pour revenir sur la question qui tue, c'est tellement agréable quand il y a un candidat qui nous pose une question qui nous concerne. Parce que sachez-le, cher candidat, faire passer des entretiens, c'est pas drôle. Et quand j'avais des journées parfois où j'avais 10 entretiens à faire passer parce que je recrutais sur plusieurs postes, ouais, à la fin, on est content quand il y a quelqu'un qui s'intéresse à nous. C'est tout bête, hein ?
Eh bien, tu sais, Gaëlle, que tu rejoins Dorit Nahon, dont je te parlais tout à l'heure, avec qui nous avons fait un podcast qui s'intitulait « J'ai recruté mes recruteurs ». Et figure-toi que c'est une question qu'elle pose à la fin, dans un ordre un petit peu différent, avec un autre sens, mais elle dit « Quelles sont vos valeurs humaines ?» à la personne. Voilà, elle a besoin de connaître les valeurs de l'entreprise et c'est la nouvelle génération aussi qui est en train de chercher, de s'intéresser vraiment aux valeurs des entreprises. Donc, je retiens ta question, je la trouve très intéressante. Ça va nous amener à la fin de ce podcast. Aurais-tu un dernier mot pour la fin, Gaëlle, pour nos auditeurs ?
Le mot de la fin, c'est je crois qu'il n'y a pas de limite à nos rêves, en fait. Ça fait très bisounours. Mais j'ai 51 ans aujourd'hui, j'en suis à mon, je crois, 23e ou 24e métier. Et j'ai toujours eu ce que je voulais, même dans des périodes où c'était la crise. À un moment, quand on veut quelque chose, on y va, on va le chercher, quitte à le chercher avec les dents. Si vous avez un rêve, si vous avez une envie, si vous voulez aller travailler pour telle entreprise, pour telle personne, petite anecdote, tiens.
Une petite parce que c'est la fin.
Oui, toute petite, promis. J'étais dans une entreprise et quand on est dirigeant dans une boîte, ça peut arriver d'avoir ce qu'on appelle des licenciements politiques. Donc je savais que ma tête allait sauter. Et donc je me suis dit, où est-ce que j'ai envie de travailler ? Et je me dis, Canal+, ça me tente bien. Et je réussis à trouver l'email du directeur général de l'époque. Je donne son nom parce que j'admire cette personne, Rodolphe Belmer, que je ne connaissais pas du tout. Et je lui envoie un email. Je résume très vite. En gros, c'était « je pense que je peux vous apporter des trucs ». La prétention du type est hallucinante. Mais je le tourne bien et compagnie sur vraiment un domaine particulier. Deux jours plus tard, l'assistante de Rodolphe m'appelle pour me dire ben, « Rodolphe veut vous rencontrer ». Et je suis allé à un entretien pour rencontrer Rodolphe. Et l'entretien s'est fini par « mais qu'est-ce que vous voulez faire chez nous ?» Oser écrire aux gens, oser écrire au PDG, oser écrire à des gens où vous dites « mais jamais ils vont me répondre ». Oui, une fois sur dix, ils vont répondre et neuf fois sur dix, ils ne vont pas répondre. Mais oser, les portes, elles ne s'ouvrent pas toutes seules, il faut les pousser. Donc mon mot de la fin, c'est oser, rêver, amusez-vous et faisons en sorte que le burn-out, le bore-out disparaisse en France enfin, parce qu'on est très mauvais là-dessus et ça tient à nous également.
Mais ça va être notre mot de la fin. Merci beaucoup Gaël pour cette note d'espoir, pour tous ces conseils que tu as apportés, qui sont des conseils précieux. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine, de nouveau avec toi, mais je ne vais pas spoiler le sujet. Très belle journée à tous, à très bientôt. À bientôt Gaël et merci pour tout.
Merci Christelle.
Merci d'avoir écouté Trouveur d'emploi. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez faire connaître ce podcast au plus grand nombre, mettez-nous des étoiles.